VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 7 décembre 2017. John Lydon en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. À la une de ce journal, concert des dénonciations dans le monde musulman. Donald Trump a reconnu hier Jérusalem comme capitale d'Israël. Au Kenya, l'investiture de Raila Odinga pourrait constituer un crime de haute trahison. C'est la mise en garde du procureur général. Le Sénégal prend un nouvel envol avec l'inauguration de son nouvel aéroport, dernier cri.
C'est un levier important pour le développement du tourisme.
Ici aux États-Unis, de nouveaux incendies en Californie. Des centaines de milliers de personnes doivent évacuer. Et puis dans 10 minutes, l'économie et le sport avec Eric Manirakiza et Nicolas Pineau. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. La décision du président Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël enflamme le monde musulman. Des voix unanimes s'élèvent pour dénoncer la mise en péril du processus de paix israélo-palestinien. Le point avec Raïssa Gironde.
La décision du président Trump a soulevé un tollé dans beaucoup de pays musulmans. Des Palestiniens en colère ont affronté des soldats israéliens et brûlé le portrait du président américain. Bethléem, Khalkiya, Jenin et les abords de Ramallah en Cisjordanie ont été le théâtre d'affrontements. Les portes de l'enfer sont ouvertes, selon le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui appelle à l'intifada. En Jordanie, des centaines de manifestants ont brûlé des photos du président Donald Trump et le drapeau américain à Amman. Des protestations sont également prévues vendredi après la grande prière musulmane. Des milliers de personnes ont manifesté en Tunisie et des parlementaires ont appelé à une mobilisation nationale pour demain vendredi. D'autres protestations ont eu lieu notamment au Pakistan et en Turquie. Recep Tayyip Erdogan a convoqué une réunion de l'OCI. De son côté, la Ligue arabe prévoit de se réunir samedi pour tenter d'apporter une réponse coordonnée à la décision du président américain.
En RDC, plus de 2000 réfugiés burundais vivant dans un camp de transit dans l'est du pays se sont opposés à une procédure d'enregistrement biométrique en raison d'une croyance religieuse. La majorité d'entre eux sont des adeptes de la prophétesse Sébia, qui assure avoir eu des visions de la Vierge dans le nord du Burundi. Depuis 2015, ils sont réfugiés à Kamanyola. La police avait tiré dans le nord du Burundi. Un regroupement de représentants de la société civile tchadienne a décidé de ne plus accepter les interdictions systématiques de marches pacifiques et prévoit d'organiser prochainement une manifestation citoyenne. Des magistrats gabonais ont dénoncé les interférences intempestives du pouvoir exécutif dans leur travail. Pour eux, ces interférences portent atteinte à l'indépendance de la justice. Le Comité des Nations Unies contre la torture a appelé l'État camerounais à mettre fin aux exactions de ses forces de sécurité dans la lutte contre Boko Haram. Le comité s'inquiète aussi des arrestations menées dans la région anglophone du pays. Par ailleurs, l'écrivain camerounais Patrice Nganan, résident aux États-Unis, a été arrêté hier par la police à l'aéroport de Douala alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays. Mardi, il avait publié sur le site internet de l'hebdomadaire Jeune Afrique un carnet de route en zone anglophone très critique envers le président Paul Biya pour sa gestion de la crise et la répression dans les zones anglophones. Le Nigeria a nommé un nouveau commandant pour diriger le groupe pour la lutte contre le groupe Boko Haram après une recrudescence d'attaques meurtrières dans le nord-est du pays. Au Libéria, la Cour suprême a autorisé jeudi sous condition la tenue du second tour de l'élection présidentielle, rejetant les recours de candidats arrivés derrière l'ex-star du football, George Weah, au premier tour le 10 octobre. La Commission électorale nationale est dans l'obligation d'entamer l'organisation du second tour, les plaignants n'étant pas parvenus à prouver leurs allégations selon l'arrêt lu par un des cinq juges. La haute juridiction ordonne néanmoins une révision des listes électorales avant ce second tour, initialement prévu le 7 novembre entre George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. Le Niger a vécu plus de 500 décès. Le Nigeria a évacué autant pour moi Plus de 500 de ses ressortissants vivant en Libye, dans le cadre d'un plan de rapatriement d'urgence mené par le gouvernement, et des milliers d'autres sont candidats au retour. Nous y reviendrons dans notre partie magazine après ce journal. Dans le même registre, l'Union africaine a annoncé dans un communiqué son intention de rapatrier dans leur pays d'origine 20 000 migrants réfugiés en Libye dans les six prochaines semaines. Au Kenya, le procureur général a averti l'opposition que l'investiture comme président de Raila Odinga, qu'elle compte organiser mardi, pourrait constituer un crime de haute trahison. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
Le procureur général Githu Muigai a prévenu qu'une quelconque investiture de Raila Odinga serait considérée comme une haute trahison. Il a ajouté que la condamnation maximale encourue est la peine de mort. Après avoir boycotté la nouvelle élection du 26 octobre, Raila Odinga continue de contester la victoire d'Uhuru Kenyatta, pourtant validée par la Cour suprême. Monsieur Kenyatta a été investi le 28 novembre. Le même jour, Raila Odinga a promis à ses partisans qu'il serait lui-même investi le 12 décembre par ce qu'il a appelé « Assemblée du peuple ». Hier, les États-Unis ont appelé l'opposition à éviter toute action anticonstitutionnelle. M. Odinga a rétorqué que les problèmes kényans seront résolus par le peuple kényan. La saga électorale émaillée de violence a fait au moins 58 morts depuis le 8 août.
Voilà. On continue donc avec une autre actualité. Le président du Sénégal, Macky Sall, a inauguré jeudi près de Dakar un nouvel aéroport international. L'aéroport international Blaise Diagne vient remplacer l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Dans la partie magazine, notre correspondant à Dakar nous propose une visite guidée de ce nouvel aéroport.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les incendies continuent de ravager la Californie ici aux États-Unis, attisés par des vents violents dans la région de Los Angeles. Des centaines de milliers de personnes ont reçu des ordres d'évacuation. Le foyer le plus actif a détruit près de 39 000 hectares, selon le dernier bilan du porte-parole des pompiers du comté de Ventura, où il sévit déjà lundi après-midi. Toujours aux États-Unis, le sénateur démocrate Al Franken a annoncé jeudi sa démission dans les prochaines semaines à la suite de multiples témoignages de femmes l'accusant de gestes déplacés il y a plusieurs années. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les faits d'esclavage rapportés de Libye et appelle à transférer les détenus aux autorités de l'État. C'est ce qui ressort d'une déclaration approuvée ce jeudi par consensus de ses 15 membres. La Russie a toutefois regretté l'absence d'une mention sur l'origine du chaos en Libye, accusant au passage la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. En Turquie, le leader pro-kurde Demirtas est maintenu en détention. Ce farouche opposant du président Recep Tayyip Erdogan, il est accusé notamment de diriger une organisation terroriste et de propagande terroriste, risque jusqu'à 142 ans de prison. Le territoire syrien est totalement libéré du groupe État islamique, a affirmé le général Sergei Routskoï, membre de l'état-major russe. Les forces soutenues par la Russie, principale alliée de Damas, combattaient les djihadistes sur la rive occidentale du fleuve Euphrate, tandis que les forces soutenues par les États-Unis luttaient contre l'État islamique sur la rive orientale. La police espagnole a annoncé le démantèlement en Andalousie d'un important réseau de trafiquants de drogue qui projectait de construire un aéroport privé pour introduire de la cocaïne dans le pays en provenance du Maroc. 14 personnes ont été interpellées et 5,1 tonne de hashish saisie. Et puis on revient sur cette information concernant dont la RCA, nouvelle tension dans le centre de la République centrafricaine. Plus de 50 personnes ont été tuées dans les affrontements entre groupes armés à Ipi dans la préfecture de la Ouaka. Des combats qui ont fait également des milliers de déplacés. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions.
Les affrontements ont éclaté dimanche dernier entre ex-Silikai Anti-Balaka, signataire en octobre dernier d'un pacte de non-agression dans la même ville de Ipi. Les combats ont déjà provoqué la mort de plus d'une cinquantaine de personnes, dont la plupart des civils. Contactés par VOA Afrique, certaines sources locales ont indiqué que la ville est vidée d'une partie de sa population, fuyant en brousse. Plusieurs milliers d'autres personnes sont massées à l'église catholique et aux alentours de la base de la MINUSCA, la mission de l'ONU. Jusqu'à mercredi soir, des corps inertes jonchaient encore le sol. Abbé Roger Stanislas Diamawa, président de la Commission pour la paix et le développement du Ipi.
Depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, les corps gisent là où les murs sont tombés et nous cherchons avec beaucoup de difficultés, avec la Croix-Rouge, pour intervenir ce corps. Les civils, on peut estimer la perte à au moins 30 et puis les combattants entre eux, on peut estimer à 20 également.
À Bangui, le gouvernement dit n'avoir pas encore des précisions sur ces combats. Son porte-parole Maxime Kazagi, ministre de la Communication, a annoncé mercredi lors d'une conférence de presse qu'il en était informé à travers les médias. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Malirakiza.
Le franc CFA tient bon, d'après une agence de notation américaine. Standard Poor's Global Rating a exclu l'éventualité d'une dévaluation du franc CFA sur le moyen terme. Les pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale qui l'utilisent présentent des perspectives stables. Les différents accords conclus avec le FMI en zone CEMAC et la robustesse des activités économiques en Côte d'Ivoire et au Sénégal dans la zone UEMOA contribuent à préserver la stabilité extérieure de ces deux zones monétaires. Le président de la BAD a dénoncé les difficultés d'accès à la terre en Côte d'Ivoire. D'après Akinwumi Adesina, le système foncier actuel appauvrit la terre et plombe l'agriculture, plaidant pour la modernisation du secteur agricole. Il a fait remarquer que l'agriculture africaine est la moins mécanisée avec beaucoup de pauvres agriculteurs qui utilisent la houe et la machette. Sur les 600 millions d'hectares de terre dans les zones de savane, 400 millions sont exploitables et seulement 40 millions sont cultivés en Afrique, soulignant que 300 millions de personnes sont mal nourries. Enfin, les ODD, 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, pourrait générer des opportunités économiques estimées à plus de 637 milliards de dollars dans l'ensemble des pays du Moyen-Orient.
Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par les matchs de la Coupe de la CECAFA au Kenya ce jeudi.
La Tanzanie battue par Zanzibar 2-1, le Burundi qui s'impose facilement devant l'Éthiopie 4-1, enfin match nul 0 partout entre le Rwanda et la Libye.
L'UEFA retire à Bruxelles les 4 matchs de l'Euro 2020.
Le comité exécutif de l'UEFA a décidé à l'unanimité de retirer ces matchs à Bruxelles devant l'incapacité des organisateurs belges à garantir que le stade en projet serait livré à temps. Ces matchs seront reprogrammés dans le stade de Wembley à Londres, annonce du président de l'UEFA, Alexander Seferin.
Nicolas, on connaît les derniers qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions en Europe.
Liverpool a assuré sa qualification ainsi que la première place du groupe E en assommant le Spartak Moscou 7-0, Sadio Mané et Mohamed Salah buteur. Séville accompagnera les Reds en 8e de finale malgré une piètre prestation et un match nul, un but partout à Maribor. Manchester City a concédé sa première défaite de la saison contre le Shakhtar Donetsk 2-1. Les Ukrainiens qui se qualifient, le Naples a pu rejoindre les huitièmes de finale, battu par le Feyenoord 2-1. Dans un match sans enjeu, Porto a dominé largement Monaco 5-2. Vincent Aboubakar, le Camerounais, auteur d'un doublé. Les Allemands de Leipzig ont concédé une troisième défaite en 6 matchs, cette fois contre le Beşiktaş déjà qualifié 2-1. Naby Keita avait réduit le score pour les Allemands. Dans le groupe H, Tottenham a balayé Nicosie 3-0 et termine premier du groupe devant le Real Madrid qui s'est fait peur mais a fini par l'emporter devant Dortmund 3-2. Aubameyang avait réduit le score pour Dortmund. À noter que Ronaldo buteur est devenu le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer lors de chacun de ses 6 matchs d'une phase de poule.
Mondial des clubs à Abu Dhabi.
Al Jazeera à Abu Dhabi s'est qualifié pour les quarts de finale du Mondial en battant Auckland 1-0. Al Jazeera affrontera au prochain tour Urawa Red Diamond, ce sera samedi avant peut-être une demi-finale contre le Real Madrid. Le WAC Casablanca sera lui opposé au Mexicain de Pachuca.
Et on va... Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, présenté par John Linden, mise en onde par Joselle Morissin. Place à présent au dossier du jour. Les réactions continuent au lendemain de la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. En Afrique, le conflit israélo-palestinien a toujours été un sujet qui préoccupe l'opinion et les gouvernements. Pour analyse, Abdourahmane Dia a joint à Dakar l'ancien ambassadeur du Sénégal au Caire, le professeur Babacar Samb.
La cause palestinienne était devenue une cause de libération nationale au même titre que la cause de l'apartheid à l'époque. L'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest sont de majorité musulmane, donc Jérusalem a, sur le plan affectif, sur le plan religieux, vraiment un statut à défendre pour l'ensemble d'ailleurs des religions. C'est pas seulement pour les musulmans, mais aussi bien pour les musulmans, les chrétiens, les juifs.
On a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, mais est-ce que les dirigeants politiques réagissent de la même façon? On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de réactions des gouvernements en Afrique.
C'est vrai, à part deux pays, chacun va adopter une position médiane en attendant de voir l'évolution de la situation, surtout du côté de la Ligue des États arabes qui a convoqué une réunion d'urgence sur la question, mais que les États ont leurs intérêts d'abord et ne veulent pas se mettre à dos par rapport à Israël, mais tout en exprimant peut-être leur solidarité avec donc les Palestiniens. Mais je crois que les mouvements associatifs, les mouvements même religieux, ne vont pas tarder à organiser, comme ça se fait déjà en Turquie et dans certains pays arabes, donc des manifestations hostiles donc à la position de Donald Trump sur la Palestine et surtout en ce qui concerne le statut de Jérusalem.
Alors, l'OCI, l'Organisation pour la Conférence islamique, se réunit en principe le 13 décembre en Turquie et beaucoup de pays africains sont membres de cette organisation. Vous pensez que ces pays pourront peser sur les décisions qui vont se prendre à Istanbul?
Oui, moi je pense que l'OCI a toujours affirmé et réaffirmé dans toutes les résolutions des sommets la solidarité avec la Palestine. Et toujours, toutes les résolutions, vous pouvez les réviser, dit donc l'indépendance de la Palestine avec Jérusalem comme capitale.
Israël essaie de se rapprocher de beaucoup de pays africains. Israël a notamment une ambassade à Dakar et dans d'autres pays. Cette nouvelle donne va-t-elle changer quelque chose?
Ça va être, à mon avis, à l'encontre des intérêts d'Israël. Parce qu'Israël a une présence, c'est vrai, sur le plan sécurité, sur le plan agricole, sa coopération avec les autres pays africains. Mais ce sont les pays arabes qui ont véritablement des investissements importants en Afrique et l'influence politique comme un pays comme l'Égypte et le Maroc.
C'était le professeur Babacar Samb, joint à Dakar.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum se met à l'heure du football ce jeudi. Le Sénégal, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie défendront les couleurs de l'Afrique à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Quelles sont leurs chances? Qui peut créer la surprise? Primes non payées, fédérations africaines mal préparées? Comment combler les lacunes notées du côté africain lors des derniers mondiaux? Pourquoi des élites du foot africain comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana n'ont pas réussi cette fois-ci à se qualifier? Et pourquoi y a-t-il si peu d'entraîneurs africains? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Comme beaucoup de pays subsahariens, suite à l'indignation née de la diffusion de vidéos montrant des marchés de vente de migrants en Libye, le gouvernement nigérien a aussi décidé de rapatrier ses ressortissants émigrés dans ce pays et désireux de rentrer volontairement. C'est ainsi qu'une première vague d'un peu plus de 500 personnes est arrivée hier soir, mercredi, à Niamey. Reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Il y avait sur le visage de la plupart des 504 ressortissants nigériens venus de la Libye en cette soirée du mercredi 6 décembre 2017 à l'aéroport de Niamey de la joie. Pour certains, c'est même une délivrance. La Libye leur paraissait comme un enfer.
Tout ce qu'on dit sur la Libye, c'est la vérité. Ce qu'on vous a dit qu'on a fait à Libye. On tue des hommes, on égorge, on menace. Et les gars qui vous trouvent, ils vous mettent les feux. Ils passent. Non, je me sens à l'aise maintenant, mon frère. Je suis chez moi. Hein? Je vais faire comme je veux.
Non, même si on me paye, je ne vais pas aller là-bas. Je ne fais pas là-bas.
Moi, je fais 3 mois en prison, sans manger, sans boire. On tue les gens. On frappe les, on les tabasse, on est maltraité. Ça me fait plaisir de rentrer à la maison comme ça.
Cette vague est la première d'une série, l'ambassade du Niger en Libye ayant déjà enregistré 4000 candidats au retour volontaire. Même eux ne sont que ceux qui sont dans les villes proches de Tripoli, la capitale, rassure ce jeune.
Ceux qui sont peut-être à 80 ou 100 km, ils ne peuvent pas venir à l'ambassade pour inscrire leur nom. Parce qu'il y a trop de barrières, tu ne peux même pas bouger à 100 mètres pour aller quelque part. Parce que ça ne va pas. C'est pour cela que je vais dire aux autorités ici, ils n'ont qu'à aller pour dire à l'ambassade. L'ambassade du Niger, de faire tout pour amener à rapatrier nos frères qui sont loin de Tripoli. Les gens qui sont aux alentours de l'ambassade, ce sont eux qui sont venus. Mais ceux qui sont loin, à 100 ou bien à 200 km, ils ne peuvent même pas venir pour inscrire leur nom.
Parti les accueillir, le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, les a rassurés de l'assistance du gouvernement dans ces moments difficiles.
Nous savons que ces dernières semaines ont pu être difficiles pour un certain nombre d'entre vous, pour vous tous peut-être, mais cette peine que vous avez pu endurer, aujourd'hui, elle est finie et chacun d'entre vous va rentrer chez lui en espérant que vous aurez les meilleures conditions d'accueil et que vous continuerez à vous battre tout comme vous vous êtes battu pour aller en Libye à la recherche d'une vie qui n'a pas été possible pour les raisons que tout le monde sait. Je voudrais, au nom du président de la République, une fois de plus, vous souhaiter la bienvenue. Nous avons préparé toutes les conditions pour faire en sorte que votre séjour ce soir ici à Niamey soit le plus bref possible parce que nous avons mobilisé assez de bus pour que chacun d'entre nous soit acheminé directement ce soir même chez lui.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
D'après le comité contre la torture de l'ONU, les forces de sécurité camerounaises commettent des exactions dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Ce comité indique que des personnes originaires de l'extrême nord, soupçonnées de soutenir le groupe djihadiste, ont été détenues au secret par l'armée et la brigade d'intervention rapide dans au moins 20 centres de détention non officiels. Morgan Guiriek a joint Ilaria Allegrosi, spécialiste du Cameroun et du Lac Tchad à Amnesty International.
Les forces de sécurité et les autorités camerounaises ont réagi, bien sûr, à juste titre, mais avec une telle dureté qu'il a vraiment bouleversé la vie des centaines et des milliers de personnes dans l'extrême nord. Amnesty International a documenté des cas de torture systématique des suspects membres de Boko Haram dans des prisons secrètes et illégales gérées par les bataillons d'intervention rapide et les services de sécurité camerounaises. On parle de morts en détention, on parle aussi de disparitions forcées depuis 2014 dans le cadre de la lutte contre Boko Haram.
Sait-on combien de personnes sont concernées par ces abus?
Amnesty International a documenté le cas de plus d'une centaine d'ex-prisonniers qui ont été détenus dans des bases militaires et dans des centres de détention illégaux qui nous ont parlé des exactions, des tortures subies sans possibilité de contacter leurs familles ni leurs avocats.
Face à ces allégations, que font les autorités camerounaises?
À notre connaissance, aucune enquête n'a été menée de la part des autorités camerounaises sur les cas documentés par Amnesty International depuis 2015 sur des disparitions forcées, des cas d'exécution extrajudiciaire, des cas surtout de torture et de détention illégale. Rien n'a été fait aucun auteur des crimes a été mené devant la justice.
Que peut apporter la récente prise de position du comité contre la torture? Est-ce que cela peut aboutir à des actions concrètes?
Les recommandations faites par le comité des Nations Unies contre la torture sont très importantes, montrent l'intérêt de la communauté internationale.
La lutte contre le djihadisme est très compliquée. Le Cameroun n'est pas le seul pays à être accusé de commettre des exactions des civils qui souffrent, des gouvernements qui ont du mal à en venir à bout. Et de leur point de vue, les méthodes dures sont justifiées. Vous leur répondez quoi?
La lutte contre Boko Haram est une cause légitime. Les autorités camerounaises ont la responsabilité de protéger les populations civiles. Les moyens utilisés en ligne avec les standards internationaux en matière de droits de l'homme. Même dans la guerre, il y a des règles à respecter.
Hilaria Allegrosi, spécialiste du Cameroun et du lac Tchad, Amnesty International.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Principale infrastructure aéroportière du Sénégal depuis l'indépendance du pays, l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar ferme définitivement ses portes ce jeudi pour laisser la place à l'aéroport international Blaise Diagne, situé dans la localité de Dias, à 47 km de Dakar. Un joyau annoncé pour 2012 qui aura finalement été construit sur 10 ans. Le point avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
D'abord, c'est la qualité de service. Avec cet aéroport-là, nous visons la qualité IATA B. Au niveau de Dakar, on n'était même plus noté, il n'y avait même plus de qualité de service, on ne pouvait plus parler de ABC.
Les autorités sénégalaises comptent sur cette infrastructure de dernière génération pour redynamiser le secteur des transports aériens et le tourisme, comme l'affirme Mohamed Abiboula Fall, directeur de la communication de l'aéroport international Blaise Diagne.
On va ouvrir avec une capacité de traitement de 3 millions, qui peut passer à 3 millions 600. C'est un levier important pour le développement du tourisme. Autour de l'aéroport va se créer au moins 6000 emplois directs et indirects. L'autre nouveauté, c'est que sur cet aéroport-là, nous pouvons accueillir les avions de dernière génération. Nous démarrons avec ce terminal-là, mais l'aéroport a été projeté dans sa phase ultime. Ça veut dire quoi? Dans sa phase ultime, cet aéroport pourra traiter jusqu'à 20 millions de passagers par an.
L'ouverture de ce nouvel aéroport est appréciée par les principaux acteurs du secteur qui s'inquiètent cependant du manque d'infrastructures hôtelières à proximité. Yaya Abou Diop de la compagnie aérienne Seiba estime que cela risque de porter préjudice aux voyageurs.
Pour l'instant, au niveau d'ABD, il n'y a pas un hôtel à proche de l'aéroport. Si un client retire son vol, il est obligé de repartir à celui à domicile et, ou bien d'aller chercher une auberge au plus proche, soit à Sindia ou bien à Thiès, là on ne le souhaite pas. Parce qu'à ABD, si tu rates ton vol, tu risques de passer la nuit, c'est compliqué.
La desserte entre Dakar et Thiès, distant de 47 km, pose également problème avec les tarifs des taxis. Variant de 13 000 à 18 000 francs CFA, ces prix font polémique, car ils sont jugés trop faibles par les chauffeurs de taxi et trop chers par certains usagers. Ibra Dien, membre du syndicat des taxis de l'aéroport de Dakar depuis 1975, affirme qu'ils ont été lésés.
Ces tarifs sont trop bas. C'est une mauvaise chose pour les taximans, car la distance entre le centre-ville de Dakar et l'aéroport de Dias est longue. Le coût de l'autoroute à péage est très cher, tout comme le gasoil. Vous devrez appeler les taximans pour discuter d'un tarif adéquat qui arrange les transporteurs et les clients. Mais les autorités de l'aéroport ont fixé le prix de manière unilatérale, ce qui est déplorable.
Mohamed Abiboula Fall, directeur de la communication de l'aéroport, indique que les prix ont été fixés de manière raisonnable.
D'abord, l'offre est diversifiée et les coûts vont de 700 francs CFA à 18 000. Ça veut dire que chacun, en fonction de sa bourse, a le choix. Deuxièmement, on parle de la cherté du prix du taxi. Quand on fait le calcul, c'est un prix raisonnable si on le compare à ce qui se passe à Dakar.
Bâti sur un espace de 4500 hectares, l'aéroport international Blaise Diagne est une infrastructure moderne qui abritera bientôt un centre de maintenance aéroportuaire. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
c'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui, mise en onde par Joselle Morissin. Curtis Bynum était à la console. Présentation John Linden. Merci à toute la rédaction pour sa collaboration et à vous pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur notre page Facebook et sur Facebook voafrique.com.